Bienvenue, vous écoutez Pixiel et aujourd'hui je vais partager avec vous la façon dont j'organise mon quotidien grâce à la technique du bloc de temps. Elle s'appelle également la technique hyper-scheduling ou time blocking en anglais. C'est une méthode que je trouve vraiment très efficace et je vais donc vous expliquer pourquoi et comment l'utiliser. Alors avant tout, qu'est-ce que c'est que cette technique du bloc de temps ? En fait, c'est un fonctionnement assez simple. Ça repose sur le fait qu'on va convertir des tâches en blocs de temps. Donc par exemple, si vous devez faire des tâches ménagères, vous savez que vous avez besoin d'une heure, vous allez le noter dans votre agenda. Si vous devez ensuite aller travailler, vous allez noter que vous avez 30 minutes de transport, par exemple, et puis ensuite une session de 3 heures de travail le matin. Etc. Donc en fait, chaque tâche que vous devez faire, vous allez vraiment la convertir en un temps qui vous semble réaliste, donc ni sous-estimé ni trop surestimé. Et comme ça, vous allez avoir des journées qui deviennent un peu plus gérables et faisables. Et vous allez pouvoir planifier par priorité ce qui vous semble nécessaire à faire. Évidemment, la flexibilité peut paraître difficile, dans le sens où on se dit, bah, si on programme tout, on ne voit pas trop comment on va être souple au fur et à mesure de la journée. Et pourtant, moi, je trouve que la flexibilité se prête tout à fait à la technique du bloc de temps. C'est même très vivement conseillé. Et je trouve même que c'est très facile, puisqu'il suffit d'avoir son planning devant soi tout le long de la journée. Et dès qu'on a fini une activité, on se réfère à son agenda. Est-ce qu'on a mis trop de temps ? Eh bien, à ce moment, on voit comment on réadapte, on fait sauter une tâche qui arrivait plus tard et qui peut sans doute attendre le lendemain. Ou alors, au contraire, on a fini en avance et on en profite pour faire une pause. Mais en tout cas, comme les blocs de temps peuvent facilement être déplacés, c'est vraiment très simple d'être flexible et je trouve que c'est même beaucoup moins stressant qu'avec d'autres méthodes que j'ai pu utiliser. Une petite limite ou un prérequis, on va dire, à la technique du bloc de temps, c'est que je pense qu'il faut avoir un minimum de goût pour l'organisation et la discipline, parce que j'ai du mal à voir comment quelqu'un qui n'est pas du tout organisé, qui n'a même pas une petite to-do list, peut passer à ce système du jour au lendemain. À mon avis, il faut déjà au minimum avoir une liste de tâches et un agenda qui tienne la route avant de se lancer dans cette aventure. À l'origine, la technique du bloc de temps, elle est arrivée, d'après ce que j'ai trouvé, en 2011, avec Carl Newport, qui est un Américain, qui a écrit un article de blog sur l'importance de planifier chaque minute de sa journée de travail. C'est quelque chose voilà, qui préconisait, c'est-à-dire de vraiment se border le temps, se border ses activités pour mieux s'organiser et mieux maîtriser sa journée. Et ensuite, de ce que j'ai vu, cette suggestion de méthodologie a donné suite à deux méthodes. Le time blocking qui a été décrit par Paul Minor et l'hyper-scheduling par David Sparks. Je vais vous mettre les liens vers ces trois articles de blog dans les notes de l'émission. Comme ça, vous pourrez aller voir. Évidemment, c'est en anglais, mais il y a quand même, même si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, il y a parfois des schémas, voire des petites animations vidéo où on voit un peu comment ça fonctionne. Donc je trouve que c'est assez parlant à ce niveau-là. La technique du bloc de temps a pas mal d'avantages différents selon moi. En tout cas pour avoir comparé avec d'autres méthodes que je connaissais. La première c'est que en fait ça permet d'être très réaliste et pas de se surbooker. Moi c'est vrai que quand j'avais simplement une to-do list, ce que j'avais tendance à faire, c'est que je me disais, bon, allez, aujourd'hui, je fais ces 7 tâches différentes et c'est bon, ça va le faire. Et puis, arrivé en fin de journée, j'en avais fait que 3 ou 4 et je voyais que je m'étais trop mis de choses et que j'avais pas pu gérer. Alors, certains jours, j'y arrivais, mais il y a quand même pas mal de jours où j'avais pas pu accomplir ce que j'avais espéré. Tout simplement parce que j'avais peut-être pas réalisé que telle ou telle tâche allait me prendre 30 minutes chacune. Et dans ma tête, je me disais qu'en un quart d'heure, c'était jouable parce que j'y réfléchissais même pas vraiment en fait à combien de temps ça allait me prendre. Tandis que là, avec la méthode du système de temps, on est obligé d'y réfléchir un minimum. Donc déjà, être réaliste, c'est le premier avantage. Le deuxième, je trouve, c'est que ça aide beaucoup à réduire le stress parce que voilà, on maîtrise son temps, on peut, enfin, moi j'ai tendance à même prévoir un petit peu plus large que nécessaire. Et du coup, je sais que voilà, j'ai quelque chose de faisable. Donc, je suis pas particulièrement stressée quand je vois la journée qui s'annonce. Je sais que à peu près tout rentre. Donc, ça, c'est plutôt reposant pour le cerveau. Le troisième avantage que je trouve énorme, c'est que ça permet de transformer les intentions en actions. C'est-à-dire que vous vous dites, là, d'ailleurs, le mois de janvier vient de passer, vous vous êtes sans doute dit, tiens, cette année, j'aimerais faire du sport. Ok, très bien. Vous l'êtes noté dans la to-do list. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Souvent pas grand-chose. On est un peu motivé en janvier, février, puis au fur et à mesure que le temps passe, il y a une chute avec peut-être une reprise en septembre à la rentrée. Mais voilà, on a tendance à plus trop le faire. Tandis que là, je vais en reparler un petit peu plus tard. Mais en gros, voilà, toutes les intentions que vous avez, elles vont apparaître à un moment dans l'agenda. Elles vont être concrétisées. Et ça, c'est vraiment un avantage clé selon moi. Et enfin, le dernier point qui peut être un atout, mais que moi je n'utilise pas, mais je pense que ça pourrait plaire à certaines personnes, c'est qu'avec la technique du bloc de temps, après coup, après une semaine par exemple, vous pouvez suivre et voir comment vous avez dépensé votre temps. Donc je sais que pour certaines personnes, c'est intéressant. Il y a des gens qui aiment bien regarder comment ils ont dépensé leur temps, quelle activité a été très chronophage ou pas. Moi, je ne le fais pas particulièrement, en tout cas pas aujourd'hui, mais en tout cas, du fait qu'on a un agenda qui va être catégorisé par couleur, peut-être selon les thèmes, et qu'on va voir toutes les tâches, on peut facilement avoir un petit aperçu de, tiens, on a passé tant d'heures sur les tâches ménagères, tant d'heures sur ses loisirs, tant d'heures au travail, etc. Si c'est une technique qui vous intéresse, je vous conseille différents outils pour vous lancer là-dedans. La première chose, ça va être d'avoir une liste de tâches. Ça paraît évident, mais il faut quand même commencer par là. La deuxième, bien entendu, c'est un calendrier. Donc ça peut être voilà, un calendrier Google, Outlook, tout ce que vous voulez. Par contre, moi, je ne vous recommande pas du tout d'utiliser le calendrier comme outil un peu final. Parce qu'en fait, dans le calendrier, vous n'avez pas accès à la liste de tâches. Souvent, enfin, il va falloir les deux côte à côte. Ça, c'est vraiment important. C'est même une fonctionnalité qui est idéale, voire indispensable. Je pense qu'il vous faut une vue tâches et calendrier ensemble. Moi, j'ai une préférence pour tout ce qui est outils numériques parce que vous pouvez faire un simple glisser-déposer. Vous glissez votre tâche dans l'agenda. Ça vous la convertit en tâche qui est, voilà, qui est chronométrée, que vous décidez si elle fait 30 minutes ou 1 h 30. Donc ça, je trouve que c'est vraiment important. Et donc pour cela, pour avoir cette vue côte à côte, il y a différentes solutions. Soit vous êtes plutôt fan de tout ce qui est papier, carnet, bullet journal, bloc-notes, et à ce moment, il y a une liste de tâches peut-être volante d'un côté, et puis une vue à la journée, où vous mettez les différents horaires, 8h, 9h, etc. Et vous allez glisser les tâches petit à petit. Mais bon, le papier, moi, je suis un peu moins fan parce que c'est moins facile à éditer. Quoi qu'encore, avec le crayon et puis la gomme, ça fait l'affaire. Ou alors, vous avez également des outils digitaux. Alors, malheureusement, il y en a très peu qui ont une vue tâches et calendrier sur le même écran. J'ai fait beaucoup de recherches, je trouve que c'est très dur à trouver. D'ailleurs, je ne m'explique pas pourquoi, parce que pour moi, ça me paraît évident que c'est la meilleure. Enfin, c'est quand même bien plus réaliste de faire comme ça plutôt qu'avoir une liste de tâches interminable ou un calendrier dans lequel il n'y a pas toutes les tâches. Mais voilà, si vous voulez passer aux outils digitaux, moi, il y en a deux que je conseille. Le premier, c'est une extension, en fait, une extension Trello. Donc, Trello, hein, c'est un outil gratuit que vous trouverez facilement sur Internet. Il comporte plusieurs extensions et l'extension en question, elle s'appelle Planyway. Je vais vous mettre le lien là dans les notes de l'émission. L'extension est gratuite et en fait, c'est assez simple, hein, elle se présente avec une vue calendrier d'un côté où vous pouvez même synchroniser votre calendrier Google ou autre d'ailleurs, et une liste de tâches de l'autre et vous faites un glisser-déposer. Et sinon, il y a également l'outil Plan qui peut être intéressant. Je l'ai un peu moins aimé parce que j'ai trouvé un peu plus complexe à gérer, mais il est quand même assez bien fichu et esthétique, donc ça peut valoir le coup. En tout cas, voilà, si vous voulez rester sur quelque chose de plus basique avec une liste de tâches et un calendrier, ça peut marcher, mais à condition de ne pas trop faire d'édition, quoi. Parce que c'est vrai que si vous remplissez votre calendrier, et puis déjà à 11h du matin, vous vous rendez compte qu'en fait, vous préférez retirer une tâche parce que vous avez un imprévu, bah, il va falloir retirer du calendrier, remettre dans votre liste de tâches. Enfin, c'est plus dur à gérer qu'un outil numérique ou papier où là, il suffit de gommer et de repasser d'un côté. Le numérique étant vraiment l'idéal parce qu'en faisant un glisser-déposer, vous perdez 3 secondes à remettre un événement dans la liste de tâches. Donc, c'est vraiment très pratique. Voilà pour la théorie. Maintenant, je vous propose de vous accompagner lors d'un petit tutoriel avec des exemples un peu plus concrets. Alors, la première chose à faire, c'est que vous allez prendre votre calendrier de la semaine à venir et vous allez commencer à border les événements. Qu'est-ce que j'entends par border les événements? Ça va être qu'en fait, si vous voyez que vous avez un rendez-vous médical dans la semaine, en fait, il n'y a pas qu'un rendez-vous médical. Avant et après, vous avez sans doute un temps de transport. Et peut-être que le rendez-vous médical, voilà, vous savez que c'est un docteur qui vous fait patienter souvent une petite demi-heure, donc vous allez aussi prévoir ce temps. Donc vous ajoutez le temps de transport avant, après, et vous allongez votre rendez-vous médical de peut-être une demi-heure. Donc ça vous fera peut-être un bloc de temps, disons 30 minutes de transport, 30 minutes d'attente, 30 minutes de rendez-vous, et encore 30 minutes de transport, ça vous fait 2 heures. Donc ça déjà, c'est quelque chose que vous pouvez vous noter dans l'agenda. Et vous allez donc border tous les événements avec toutes les petites choses invisibles comme ça, comme le temps de transport. Ensuite, le deuxième point, c'est que vous allez peut-être ajouter les tâches ou les événements de routine. C'est-à-dire, chaque matin, vous êtes un peu comme tout le monde, vous avez ce temps de petit déjeuner, douche, etc. Donc moi, je l'appelle simplement le lever et je bloque 1 heure de temps pour ça. Le soir, il y a le coucher. Le midi, vous allez vous prévoir un repas parce que même si vous ne déjeunez pas avec des collègues ou autres, j'imagine qu'il vous faut quand même à peu près 30 minutes pour déjeuner, donc vous le prévoyez. Et vous allez entrer tous les différents temps comme ça que vous savez qu'ils sont routiniers. Ça peut être également, vous voulez faire du sport 3 fois par semaine, bah vous le notez. Voilà, c'est tout ce qui est les habitudes, les routines qui, vous savez, sont là et remplissent le temps. Voilà, maintenant vous avez donc votre calendrier, vos événements de routine. Troisième point, c'est là que vous commencez à faire votre liste de tâches ou à la récupérer si vous l'avez déjà. Alors, je ne vais pas revenir dans cet épisode de podcast sur comment faire pour avoir une liste de tâches. De toute façon, je pense que si vous écoutez cet épisode, pardon, vous connaissez tout à fait le principe de la to-do list et vous êtes déjà bien familier avec ça. On va simplement noter que pour l'exercice un peu du bloc de temps, il y a 3 tâches différentes qui vont nous intéresser. D'abord, toutes les tâches avec une échéance. Donc ça va être le colis que vous devez aller récupérer chez la poste durant les 2 prochaines semaines, sans quoi le colis il repart au centre de triage et forcément c'est embêtant. Donc vous notez bien les dates d'échéance qui sont associées à toutes ces tâches-là. Ensuite, vous avez les tâches un peu à usage unique que vous pouvez faire un peu quand vous voulez. Et puis les tâches de long terme, on va dire. Là, je vous renvoie à l'épisode 4 de ce podcast où vous verrez que en fait j'avais fait le bilan de mon année 2019. Et j'avais en conséquence réfléchi à quels étaient mes objectifs 2020. Les objectifs 2020, au-delà de grandes idées, de bonnes résolutions que je voulais faire, je les ai transformés en petites actions, en petites tâches. Et ces tâches-là, pour qu'elles soient réalisées, il ne faut pas simplement les garder sur la to-do list et les oublier dans 2 mois, mais il faut vraiment les transformer en intention concrète. Et c'est là que justement la technique du bloc de temps est super utile. C'est parce que je vais regarder régulièrement ces tâches-là et je les glisse dans mon calendrier. Donc forcément, une fois qu'elles sont dans le calendrier, il n'y a plus qu'à passer à l'action et à les faire. Donc bref, en tout cas, voilà, vous avez maintenant votre liste de tâches et tout ce qui vous reste à faire, c'est à les glisser-déposer, pardon, les différentes tâches dans le planning. Donc vous prenez votre planning de la semaine, vous mettez d'abord toutes les tâches qui ont une échéance en prévoyant un peu de temps en avance. Donc si le colis à la poste, il doit être récupéré avant mercredi soir, bah, prévoyez peut-être de le commencer lundi ou mardi, comme ça vous laisse un peu de flexibilité s'il y a un imprévu et que vous ne pouvez pas le faire. Ensuite, vous mettez quelques tâches uniques que voilà, vous allez faire. Et après, bah, vous allez utiliser les tâches avec des objectifs plus long terme. Vous allez peut-être en mettre une ou deux par semaine. Une petite parenthèse sur les tâches qui sont à durée très courte, qui durent que 5 minutes. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai les notes tout en haut de la journée et je me bloque des temps, par exemple un bloc de une demi-heure d'hiver, et puis ben, je fais au mieux. Mais souvent, c'est des tâches, c'est pas très grave si je les fais pas le jour même, je les ferai le lendemain, donc je sais pas, comme lancer une machine à laver ou des choses comme ça, on s'en fiche un petit peu. Il faut le faire, mais il n'y a pas mort d'homme si c'est pas fait dans la journée. Donc voilà, bloquez-vous juste un bloc de temps assez large pour ça. En tout cas, voilà, on a vu donc les trois étapes de la méthode du bloc de temps. Le premier, c'est que vous prenez votre calendrier à la semaine, vous bordez vos événements. Le deuxième point, c'est que vous ajoutez les événements de routine. Et le troisième point, c'est que vous prenez votre fameuse to-do list et vous allez tout glisser-déposer dans votre agenda. À la fin, vous devez avoir un planning qui est assez coloré. Coloré dans le sens où vous allez mettre des catégories à vos tâches. Enfin, moi, c'est ce que je vous conseille. Le travail, par exemple, ça va être jaune, la santé en orange, les tâches ménagères en gris, etc. Pourquoi? Parce que c'est assez bête, hein, mais si vous voyez que vous avez un emploi du temps très coloré, vous savez que c'est à peu près bon et équilibré. Moi, les loisirs, je les ai mis en rose. Au tout début, quand j'ai commencé à utiliser la méthode du bloc de temps, il n'y avait pas du tout de rose et je voyais bien que c'était problématique parce que l'être humain n'est pas fait pour travailler non-stop de 8 h à 22 h. Donc il faut quand même se ménager des temps de pause et des temps de détente pour mieux repartir sur le reste. Voilà, en tout cas, c'est la méthode complète, voilà, que vous pouvez voir, et je vais un peu vous parler des différentes astuces et des bonnes pratiques que j'ai. On termine donc par mes astuces un peu personnelles que j'ai découvertes au fur et à mesure. Déjà, pensez bien à tout prévoir. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure du temps de transport, mais ça va être également du temps de pause. Le temps de pause, ça peut être du temps où vous allez rien faire de particulier, mais vous soufflez un peu, vous allez boire un café, etc. De la même manière, ce que j'aime bien faire dans le cadre professionnel, c'est que quand j'ai une réunion importante qui va être un peu complexe, qui dure par exemple 1 heure, je me rajoute tout de suite après un bloc de 30 minutes pour faire le débrief de la réunion. Parce que comme elle était complexe, je sais qu'il vaut mieux prendre mes notes à chaud et ne pas trop laisser traîner. Donc ça, c'est quelque chose que j'anticipe aussi. Je vous conseille également, j'en ai déjà parlé dans le tutoriel, mais de planifier une semaine à l'avance maximum. Ça sert vraiment à rien d'aller plus loin, parce que le planning, il va bouger de toute façon. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prévois plus ou moins une semaine à l'avance. Je la complète pas vraiment en entier, je la laisse un peu vide, enfin je mets les trucs essentiels. Et ce que je fais, c'est que soit le soir, soit le matin, eh ben je me prévois la journée du lendemain. Et là, de manière détaillée, où il n'y a plus aucun bloc vide. Moi, après, quand j'ai fini mon planning de la journée, tout est rempli. Mais tout est rempli également de pauses, de temps pour souffler, de temps de détente, en plus des tâches ménagères, etc. Sauf s'il y a des jours où là, bon, il faut être en mode bulldozer, ça arrive à tout le monde, et là, on n'a pas trop le choix, donc c'est un peu plus serré. Mais voilà, en tout cas, maximum une semaine à l'avance, et je dirais minimum une journée quand même à l'avance. Je vous conseille également de prévoir large. Il vaut mieux prévoir un peu trop large que trop court. Parce que finalement, si vous prévoyez un peu trop large, c'est, je ne sais pas, vous planifiez 1 h 30 pour quelque chose qui finalement vous a pris 1 h 15, bah tant mieux, ça vous fait un petit quart d'heure pour souffler ou pour faire une micro-tâche de 3 minutes que vous avez planifiée à la journée mais que vous n'aviez pas mis dans le planning. Ça, c'est autre chose d'ailleurs, hein. N'allez pas tout prévoir dans le moindre détail à la minute. Moi, je fais ça par des plages de 30 minutes. Il y a des gens qui préfèrent faire des plages d'une heure, à vous de voir. Mais toutes les tâches qui prennent moins de 30 minutes, il ne faut pas qu'elles soient notées dans l'agenda. Elles peuvent être notées en haut, enfin, parce que sur Google, sur le calendrier Google, Trello, les différents outils que je vous ai dit, en fait, vous avez des tâches que vous mettez dans le planning et vous pouvez en mettre à la journée. Moi, quand j'en mets à la journée, c'est vraiment des micro-tâches qui prennent 2 à 3 minutes. Et évidemment, j'en mets pas 10 000, quoi. De toute façon, c'est rare que vous en ayez autant que ça à faire. L'autre astuce, c'est que je vous conseille, dans un premier temps en tout cas, après vous serez peut-être plus à l'aise, c'est de prévoir un petit bloc imprévu par jour. Donc tous les jours, vous mettez, je pense pour démarrer, ça peut être pas mal, 1 h ou 30 minutes d'imprévu. Et donc, c'est quelque chose que vous avez dans votre planning, peu importe un peu l'heure à laquelle c'est, mais au moins vous savez que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez aller jouer, vous pouvez aller piocher dedans en cas de besoin. Après, moi, comme je vous l'ai dit en introduction de cet épisode, je trouve que la méthode du time blocking, elle n'est pas du tout incompatible avec beaucoup de flexibilité, au contraire. Donc, moi, les blocs imprévus, je les ai pas mal utilisés au début. Maintenant, je n'en ressens plus le besoin parce que je me réadapte sans problème, quoi. Ça ne me gêne pas. Et enfin, la dernière bonne pratique que je vous donnerai, c'est idéalement de tout avoir sur un seul calendrier. Parce que si vous commencez à avoir un calendrier pro, un calendrier famille, un calendrier perso, ça va vite devenir un peu le bazar. Donc, si vous pouvez, mettez tout dans un calendrier. Si ça vous en semble difficile, je dirais un calendrier privé et un professionnel. Dans le privé, vous allez mettre, je ne sais pas, que vous avez 3 heures de travail le matin, 4 heures de travail l'après-midi. Donc vous mettez un gros bloc de travail le matin, un gros bloc l'après-midi. Et dans votre calendrier professionnel, vous renotez ces deux blocs de temps et vous n'avez le droit de planifier vos tâches professionnelles que dans ces blocs de temps, pas en dehors, puisqu'en dehors, vous savez que c'est le temps privé. Donc voilà, ça c'est un peu les différents conseils que j'ai pour vous aider à démarrer. Cet épisode est terminé. J'espère que ça vous a bien plu, bien intéressé, et surtout n'hésitez pas à partager vos retours avec moi. Racontez-moi un peu ce que vous pensez de cette technique du bloc de temps. Est-ce que, je sais pas, vous l'avez déjà utilisée et comment? Et si cela ne vous convient pas, ben pourquoi? En tout cas, voilà, vos retours, c'est quelque chose de très précieux qui va beaucoup m'aider à me motiver et qui m'encourage beaucoup pour continuer ce podcast. Donc, je serais ravie, n'hésitez surtout pas. Pour m'encourager, vous pouvez soit noter le podcast sur Apple Podcast, puisque c'est la plateforme un peu la référence, on va dire. Mais si vous préférez, vous pouvez m'envoyer vos commentaires directement par écrit sur le site internet qui est dans les notes de l'émission. Je suis également sur Twitter si vous préférez. Et enfin, pour les plus audacieux, sachez que l'application de podcast que j'utilise, qui s'appelle Encore, permet d'enregistrer des messages vocaux d'une minute maximum. Donc si vous voulez me faire un retour de vive voix, n'hésitez pas, ça me fera très plaisir également. À bientôt!